Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission sur le climat dans les Pays de la Loire. Un sujet brûlant puisque nous sommes en pleine vague de chaleur, la troisième de l'année, et qu'il fait bien bien chaud dans le studio de Prune à Nantes. Forcément, on parlera beaucoup de la canicule, on verra ce que l'avenir nous réserve dans la région selon les prévisions du GIEC Pays de la Loire. On ira voir comment le secteur du bâtiment s'adapte à cette réalité. On parlera aussi de l'impact des fortes chaleurs sur les poules, un sujet d'inquiétude car il y a beaucoup d'élevage de poulets dans la région. On ira faire un tour sur les plages bretonnes où avec la chaleur, les algues vertes se multiplient comme les fausses bonnes idées pour s'en débarrasser. On ira voir comment les festivals s'adaptent à la canicule en Mayenne tout en essayant de réduire leur impact écologique. Et puis on se demandera comment les journalistes peuvent faire pour mieux traiter les enjeux liés à la crise climatique. C'est parti, prenez votre gourde d'eau et votre brumisateur. On est ensemble pendant une heure. Plus de 41 degrés au Mans, plus de 42 à Nantes et même plus de 44 à Saint-Florent-le-Vieil. Le 23 juin dernier, les Pays de la Loire ont battu des records de température depuis le début des relevés. À l'échelle nationale, le mois de juin 2026 a été le plus chaud jamais enregistré. C'est l'une des conséquences du changement climatique causé par les activités humaines, la combustion de pétrole, de gaz et de charbon. Qui aurait pu prédire la crise climatique ? Se demandait Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français le 31 décembre 2022. Eh bien, les scientifiques, monsieur le Président, qui alertent depuis les années 70. À l'échelle régionale, un groupement d'experts et d'expertes, le GIEC Pays de la Loire, a sorti son premier rapport en juin 2022. Il prévoit plusieurs scénarios. Du plus optimiste, si on réduit drastiquement à l'échelle planétaire nos émissions de gaz à effet de serre, au plus pessimiste, si on ne fait rien pour les réduire. Dans tous les cas, il faut s'attendre à une hausse des températures annuelles moyennes dans les 30 prochaines années dans la région. Selon les scénarios, cette hausse pourrait aller de 1 à 2,5 degrés d'ici à 2055. Et dans ce dernier cas, il ferait la même température à Angers et à Nantes qu'à Biarritz à la fin du siècle dernier. Et c'est le sud de la région, à l'intérieur des terres, qui serait le plus touché, le sud de la Vendée et l'est de la Sarthe. Alors concrètement, il y aura plus de jours chauds, au-dessus de 25 degrés. Il pourrait y en avoir 10 à 30 de plus par an, selon les scénarios. Il y aura aussi plus de jours très chauds, au-dessus de 35 degrés, ce qui était exceptionnel dans la région à la fin du siècle dernier. Dans le pire des scénarios, il pourrait y en avoir une dizaine par an en 2100. Quant aux nuits tropicales, où l'on ne descend pas en dessous des 20 degrés, on en a eu plusieurs ces derniers mois dans la région. Il pourrait y en avoir 5 par an avant 2035 et ça pourrait grimper à 10 nuits par an en 2055 dans le pire des scénarios. Quant aux vagues de chaleur, quand la température dépasse la normale de plus de 5 degrés pendant plus de 5 jours, elles seront plus précoces, plus longues et plus sévères. On pourrait en avoir 10 jours de plus par an d'ici 30 ans dans le scénario le plus optimiste, 18 à 27 jours supplémentaires dans le pire des scénarios. La multiplication de ces vagues de chaleur est déjà palpable. Il y en a eu autant entre 2000 et 2020, en 20 ans donc, que sur les 50 années précédentes. Et rien que pour 2026, on en est déjà à la troisième vague de chaleur dans la région. Et la première a été particulièrement précoce. C'était la première fois que Météo France plaçait l'ensemble de la région en alerte rouge canicule au mois de mai. Une situation alarmante donc qui pointe l'urgence d'une politique ambitieuse d'adaptation au bouleversement climatique d'une part, mais aussi de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter le scénario le plus pessimiste d'une hausse de 3,5 à 4 degrés dans la région à l'horizon 2100. Il y a un secteur qui a du mal à s'adapter dans la région, Alexandra, c'est le secteur du bâtiment.
Oui, et ce n'est pas que dans la région. Et pour pouvoir s'adapter, encore faut-il pouvoir qualifier ce dont il s'agit. Car quand on parle de chaleur, même sur les mots et la mesure de l'impact pour les gens dans les bâtiments, eh bien les choses ne sont pas au clair. Alors on parle de souffrance thermique estivale, de bouilloire thermique par exemple, de confort d'été, c'est des mots qu'on va être amené à entendre de plus en plus. Il faut savoir que à l'échelle régionale, on estime que c'est 27% des logements qui sont classés entre 7 et 10 pour le risque de surchauffe. Alors le risque de surchauffe, il commence, il y a un indice, un indicateur qui est en train de s'imposer petit à petit. On parle de degrés d'heures d'inconfort thermique. Donc le degré d'heure d'inconfort thermique, c'est plus de 26 degrés la nuit et puis plus de 26 à 28 degrés le jour. Alors ça, c'est une toute nouvelle norme qui arrive justement sur les bâtiments neufs avec la nouvelle norme RE 2020. Ça va être intégré En tout cas, ça ne l'était pas. Donc, pour l'instant, même quand on parle des DPE, des diagnostics de performance énergétique, eh bien, ça ne parle pas du confort d'été. Et donc, il n'y a pas encore de normes aussi sur la construction ou sur l'évaluation pour les habitants sur ce champ-là. Et puis, il faut savoir que c'est toujours pas fléché non plus dans les aides, type MaPrimeRénov, quand on parle de réhabilitation énergétique. Eh bien, pour l'instant, il n'y a rien qui est fléché pour aider à l'adaptation sur ce volet estival. Donc, l'adaptation, on amorce à peine les questions de mesure des expositions. Toujours est-il que, autant sur le 9, ce nouvel indicateur va permettre de faire évoluer les choses, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est plus des deux tiers des bâtiments qui seront là en 2050, sont ceux qui sont déjà construits. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à l'existant ? Un petit élément qui m'a un peu surprise, bien entendu, c'est dans les habitats collectifs, généralement, que l'inconfort d'été est le plus vif, mais pas forcément dans le parc social, puisque la recherche montre que le parc social a davantage de normes, moins de bâtiments très anciens aussi, avec les fameuses chambres de bonne sous les toits. Quelque part, fréquemment, les habitants du parc social sont un peu moins soumis à ça, en tout cas dans une ville comme Nantes. J'ai pas eu le temps de chercher tous les chiffres. Il y a aussi des réhabilitations massives pour essayer quand même d'isoler un peu mieux. La question, en tout cas, se pose de manière très très vive, en particulier pour les locataires du parc locatif privé qui n'ont pas toujours les moyens d'aménager. Et là-dessus, il y a un mouvement qui a été lancé par la Fondation pour le logement. C'est pas de volet, pas de loyer. C'est toujours en cours. Pour le moment, il n'y a pas d'obligation des propriétaires sur ce champ. En matière d'adaptation, en tout cas, les professionnels réfléchissent dessus à échelle locale. Il existe un consortium qui s'appelle NovaBuild, qui rassemble près de 450 structures à échelle régionale, avec des professionnels du bâtiment, mais aussi des chercheurs, des citoyens qui s'intéressent à la fois sur le volet réemploi atténué sur la construction du neuf, mais aussi adapté. Et ils proposent cet après-midi même une visite d'un site pour parler du confort d'été à Chemillé en Anjou. Et là, c'est l'entreprise Tellier Brise Soleil qui propose de voir ce que donne un confort d'été sans climatisation, mais en prenant des mesures. Dans les mesures qu'on peut citer avant même d'aborder la climatisation et qui sont, en tout cas, qui là vont être présentées lors de cette visite, eh bien, il y a, j'ai découvert ça, par exemple, le rafraîchissement adiabatique. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
Aucune idée.
Alors, c'est un mot un peu savant pour désigner quelque chose, finalement, qui se fait naturellement. Un linge frais, imbibé d'eau, l'air chaud passe au travers et ça rafraîchit l'atmosphère, ça capture une partie de la chaleur. Le problème, c'est que si on est sur un territoire humide, ça vient accentuer l'humidité et on sait très bien que le ressenti de la chaleur peut être lui-même amplifié par le taux d'humidité, donc c'est peut-être à mesurer. En tout cas, ça fait partie des pistes envisagées et qui sont prometteuses d'après l'ADEME. On a bien sûr tout ce qui est travaillé sur la ventilation naturelle. L'entreprise en question, Tellier Brise Soleil, on peut venir poser sur des façades existantes, donc de bâtiments plus anciens. Ça va être des grandes tiges en bois ou en fer qui vont venir justement briser le soleil et qui peuvent être même amovibles et se mouvoir en fonction de l'orientation et sur commande. Donc des protections solaires de façade. Et puis, on imagine que c'est un sujet qui va être brûlant, y compris pour des constructions neuves, comme la gare de Nantes, avec son hall qui est une véritable verrière. Voilà, à suivre donc sur ces questions. Et puis, on peut, juste pour finir, y a la question des zones refuges pour celles et ceux qui sont dans des bâtiments particulièrement insoutenables. Alors, elles se multiplient là, dans l'urgence. Mais si on pense un peu l'utopie de demain, on pourrait imaginer aussi que dans quelques années à peine, un peu partout sur le territoire, on développe des zones refuges climatiques, mais conviviales, collectives, qui ne soient pas simplement une solution de dépannage. On peut tabler sur la dynamique locale pour espérer que ça émerge et puis on suivra tout ça.
Merci Alexandra. Alors on a beaucoup parlé de l'impact sur les humaines et les humains, mais parmi les grandes victimes des importantes vagues de chaleur liées à la crise climatique, on compte aussi de nombreuses espèces animales. Et c'est particulièrement le cas des poulets, très présents dans l'Ouest, Simon Boucrel.
Oui, pas plus tard qu'hier, tu me racontais avoir retrouvé ta poule morte, probablement sous l'effet de la chaleur. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que ce genre de choses arrive, tant cet animal est ultra vulnérable aux fortes températures.
Alors pourquoi les poules souffrent particulièrement en ce moment ?
Pour une raison simple. exemple, elle ne transpire pas. Impossible donc pour elle d'évacuer la chaleur correctement. Alors dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés, le rythme cardiaque s'accélère, les poules hyperventilent et finissent par mourir de choc thermique.
Et c'est encore pire pour les poules en élevage.
Oui, évidemment, vous voyez comment c'est déjà difficile pour nous humains de supporter d'être à plusieurs dans une pièce fermée. Et bien, mettez-vous 2 minutes dans la peau d'une poule d'élevage. Allez-y, c'est très difficile, mais allez-y. Entassée par centaines, voire par milliers, dans des bâtiments où il fait presque 40 degrés. Et je le rappelle, sans pouvoir transpirer. Forcément, ça ne peut que mal se terminer. Sur France Info, un éleveur vendéen témoigne. Elle, ses poules, étaient couchées au sol à chercher la moindre goutte d'oxygène. Au total, il a perdu 6000 d'entre elles. Ça représente la moitié de son cheptel. Lors de la canicule de 2003, ce n'est pas moins de 2% de la population française de poulets et de dindes d'élevage qui est morte sous l'effet de la chaleur.
Et au-delà de la question du bien-être animal, la mort de ces poules a un impact économique fort pour la région Pays de la Loire.
Alors je vais donner un chiffre particulièrement éloquent. 75 millions, c'est tout simplement le nombre de volailles élevées dans la région. Ça représente un quart de la production mondiale. Moi j'ai grandi dans la Sarthe à 20 km de Loué.
Peut-être pas quand même.
National, pardon, oui. Moi j'ai grandi dans la Sarthe à 20 km de Loué et j'ai toujours entendu dire qu'il y avait plus de poulets que d'habitants. Sauf qu'en Sarthe, selon Météo France, on est monté jusqu'à 41 degrés le mois dernier. Imaginez les dégâts. Une inquiétude donc pour toute la filière déjà touchée par de récentes épidémies de grippe aviaire, parce qu'au-delà des éleveurs, la filière avicole, c'est aussi les employés des abattoirs ou encore de la grande distribution.
Mais ce problème semble quand même plus toucher les gros élevages de poulets industriels. Est-ce que ça serait pas plus simple de changer de modèle ?
Forcément, c'est plus facile d'offrir une meilleure condition de vie en période de canicule à des poulets qui ne sont pas entassés à 10 000 dans un hangar. Mais malheureusement, c'est plus compliqué tant le poids et la puissance des grands groupes industriels comme LDC est importante. Dans un article de Mediacité, un éleveur de la Confédération Paysanne déplore « L'ambition générale, c'est de développer les poulets industriels, c'est de prendre des parts de marché dans les volailles à bas coût, dans la grande distribution et à l'export ». Ce qu'on peut éventuellement espérer, c'est que la crise climatique ait au moins le mérite de faire prendre conscience de ce genre de modèle.
Et on peut être optimiste à ce sujet ?
Pas vraiment, malheureusement, puisque pour le moment, face à la mort de ces poulets, l'approche technosolutionniste semble privilégiée. La recherche ne se porte pas tellement sur des nouveaux modes d'élevage, mais plutôt sur comment installer des brumisateurs, des ventilateurs, ou sur comment refroidir les hangars. On se penche aussi sur des aliments qui pourraient permettre aux volailles de s'adapter à la chaleur. Mais évidemment, tout ça a un coût économique et écologique. Et pour savoir si c'est efficace véritablement, rendez-vous dans les prochaines canicules.
Merci beaucoup Simon Bouquerel. Et pour ce qui est de cette canicule, on compte en région Pays de la Loire des milliers de tonnes de volailles mortes. On part tout de suite à la plage, voir les algues vertes avec Emmanuel. Alors pas à la plage pour se baigner, mais plutôt pour aller voir un petit peu ce qu'il en est.
Oui Marion, mais avant de parler du sujet qui réapparaît fortement en Bretagne avec ses fortes chaleurs, un petit rappel quand même sur un documentaire qui est sorti en 2023.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Mais tu tomberas toujours mal.
Lâchez la mort ce que vous faites !
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Tes reportages, ils font trop de remous.
Les écolos vont encore nous faire chier.
Les écolos vont encore nous faire chier. Vous avez reconnu quand même cet extrait du film Les Algues Vertes, réalisé par Pierre Jolivet, sur une adaptation du livre bande dessinée de d'Inès Leroux et Pierre Van Hoff, donc sorti en 2023. Ils alertaient à l'époque sur les dangers mortels de ce fléau qui a envahi nos côtes bretonnes. À l'époque, la zone est principalement cantonnée entre la baie de Saint-Brieuc et la baie de Lannion, dans les Côtes d'Armor. Il faut rappeler qu'il y a quand même eu plusieurs morts suspectes, qui va être un peu le début de l'enquête que va mener Inès Leroux. Rapidement, elle va dans le milieu agricole du Nord-Bretagne, rencontre avec des paysans, mais aussi les milieux politiques très hostiles à une telle enquête. Pour précision, les algues vertes se développent en raison de la combinaison de 3 facteurs principaux, des baies fermées, donc la baie de Saint-Brieuc et la baie de Lannion, peu profondes, où il y a peu de courant, une météo favorable comme en ce moment, température clémente et ensoleillement, et la présence d'un excès de nitrate dans les eaux. Opportunistes, ces algues vertes, elles ont la capacité à pousser beaucoup plus vite que les autres espèces d'algues, dès que ces conditions sont réunies, pardon. C'est ce que nous rappelle le professeur d'océanographie biologique à la station marine de Roscoff, Dominique Davoux, dans un entretien sur le site de la Sorbonne. Il nous précise encore que pour résoudre durablement le problème des marées vertes, il est essentiel de contrôler les facteurs qui favorisent la prolifération des algues, notamment en limitant les apports excessifs de nitrates, on l'a dit en introduction, provenant principalement des rejets et des effluents agricoles et des élevages. Ça, c'est dit. Il faut donc trouver la solution. Le manque de courage politique pour s'en prendre aux causes réelles de cette prolifération qui touche aujourd'hui tout le territoire breton, hein, pas seulement les Côtes d'Armor, puisque par chez moi, vers le Pays de l'Orient, il y en a énormément. On a trouvé là une solution technique qui est en phase de test en ce moment dans la baie de Saint-Brieuc, berceau de cette pollution. L'entreprise Cycleaner, j'aime bien le nom, enfin bref, dans le cadre d'un marché avec la préfecture des Côtes d'Armor, a construit un bateau collecteur, j'aime pas, il n'est pas collecteur encore, c'est le terme employé, c'est une barge de 12 mètres qui a été lancée en 2024. Le projet a été ajourné en 2025 pour cause de baisse de volume dans la baie. En effet, nous sommes passés d'environ 4000 tonnes d'algues vertes en 2024 pardon, et 2700 tonnes en 2025. La forte recrudescence cette année a relancé le projet, nous explique le journal local Ouest-France. La préfecture des Côtes d'Armor nous dit que le projet sera validé à l'automne, mais toujours pas de solution réfléchie en amont, pas de réflexion globale, mais une solution technique qui ne résoudra sans doute pas le problème, mais le cachera aux nombreux vacanciers qui vont affluer sur nos côtes, puisqu'il fait beau en Bretagne.
Je descends sur la plage, le soleil tape sur mon dos. La mer est calme et bien sage, le sable brûle ma peau. J'enlève mon chapeau de paille, lunettes de soleil sur le nez. Il y a du monde en pagaille, des serviettes roses et des beignets. Sa paillette, parasol jaune en étendard. Je mate les filles, je mate les mecs. Il y en a un qui pique un phare. Je trempe un doigt, je trempe un pied. Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud, oh, oh, à la cano, oh, oh, il fait chaud. Un homme court sur le rivage, nageur sauveteur en pleine action. La foule se lève sur la plage, fausse alerte, circuler c'est bon. Réconfort, glace vanille fraise, biscuit qui croque entre mes dents. Petite fraîcheur à trois françaises, je m'allonge, je me détends.
Chaud de Corinne Marion, tu vois, titre de circonstance, on va dire.
Merci Emmanuel. Et alors justement, à propos de musique, il y a beaucoup de festivals qui ont dû être annulés à la dernière minute à cause de la vague de chaleur fin juin en France, les Solidays, Garo Rock, la Fête du Fer, entre beaucoup d'autres. Et justement, on part en Mayenne avec Adèle qui s'est penchée sur l'adaptation des festivals au changement climatique.
Et oui, tout à fait, la multiplication des canicules en France amène de plus en plus d'organisateurices et de festivalières à se demander comment s'adapter à la crise climatique tout en renouvelant leur mode de fonctionnement. Pour rappel, un festival, ça émet 742 tonnes, respectivement 160 et 208 allers-retours Paris-New York de CO2 en avion. Et côté d'échelle, l'ADEME estime qu'une manifestation de 5000 personnes générerait environ 2,5 tonnes de déchets. Oui, c'est quand même beaucoup. Dans les territoires ruraux comme la Mayenne, à la biodiversité directement impactée par la pollution, les festivals mettent de plus en plus en place de nouvelles mesures comme les trois éléphants, un singe en été et les nuits de la Mayenne pour répondre aux problématiques liées à l'environnement. La première mesure, c'est le covoiturage. Pour la première fois, les Nuits de la Mayenne mettent en place des navettes à très petit prix pour réduire les émissions de CO2 et inviter les festivalières à faire du covoiturage. Les Nuits de la Mayenne proposent aussi un service de covoiturage, un site internet, pour que les festivalières trouvent des personnes avec qui faire la route tout simplement. Le festival propose aussi des spectacles dans toutes les intercommunalités pour la première fois depuis sa création, ce qui permet aux Mayennais de choisir leur spectacle en fonction de leur lieu d'habitation, mais entraîne inévitablement le risque de prendre la voiture pour des spectacles un peu plus éloignés. Dans la même veine, les Mouillotins proposent un lien vers une application et un suite de covoiturage, tout comme les Nuits de la Mayenne, sauf que là, le téléchargement de l'application engendre inévitablement des coûts supplémentaires en termes d'énergie. Les organisateurs vont également de plus en plus faire venir des artistes locaux. C'est le cas des Trois Éléphants et des Nuits de la Mayenne. Toujours, les organisateurs mettent en place les réseaux afin de réduire les coûts de transport en s'organisant ensemble pour faire venir des artistes sur un même territoire pendant un temps réduit. Pour réduire les déchets, et suite à la loi de 2003 sur l'interdiction des déchets plastiques, un singe en été utilise de la vaisselle réutilisable et met en place un tri des déchets du compost. Il y a aussi des toilettes sèches, une réduction des emballages et une mise en place de stands de restauration bio et locaux. Depuis 2024, le festival du VNB Fest sert 70% des repas dans 17 food trucks différents avec de la vaisselle réutilisable. D'autres initiatives sont mises en place par les festivals comme la Brigade Verte aux Trois Éléphants ou les food trucks végétariens. Le festival des Trois Éléphants s'est également installé cette année Square de Boston pour profiter des lieux ombragés afin d'éviter tout simplement la climatisation et les jets d'eau qui sont parfois inévitables dans les temps de canicule. Un singe en été autorise les gourdes vides jusqu'à 75 centilitres et les gobelets réutilisables malgré le plan Vigipirate mis en place en 2015. Donc les déplacements en lieux ruraux tendent à déranger la biodiversité dans les festivals. Ça pose question par rapport aux animations qui sont parfois mises en place pour sensibiliser à la nature qui vont malgré elle dépenser du CO2 et déranger la biodiversité. Par exemple, aux Nuits de la Mayenne avec le spectacle Le Bois Dormant, on va chercher à sensibiliser le public et notamment les enfants au territoire de la Mayenne, faire découvrir son histoire, la biodiversité, mais inévitablement dans ce genre d'animation, on va se balader, on va pourquoi pas amener des machines et donc déranger paradoxalement la biodiversité. Donc là, pour conclure, c'est vrai que la territorialité rurale peut parfois apparaître comme verte dans l'esprit de plusieurs personnes et qu'elle est en première ligne dans la destruction de la biodiversité et des conséquences de l'agriculture, mais les festivals en Mayenne sont tout autant concernés par les problèmes d'émissions de CO2 et de déchets.
Merci Adèle. Et tout de suite avec toi Loïc, on se demande comment les journalistes peuvent faire pour mieux couvrir tous les enjeux liés à la crise climatique.
Ouais. Qui aurait pu prédire ?
Sérieusement Manu ? Qui aurait pu prédire ? Cette petite phrase lancée un soir de vœux présidentiels par un certain Macron résonne encore comme le symbole absolu de l'inaction climatique. Qui aurait pu prédire ? Poser la question, c'est cracher à la tronche de 40 ans de science. En 1979, le rapport de Jules Charnay pointait déjà du doigt le réchauffement à venir. En 1990, le premier rapport du GIEC décrivait au thermomètre près ce que nous vivons aujourd'hui. Des scientifiques du monde entier comme Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, Christophe Cassou ou encore la climatologue Friedrich Otto répètent, martèlent et alertent inlassablement sur l'effondrement qui nous guette. Tout était écrit, ce n'est pas un défaut de prédiction, c'est juste un refus de description. Et c'est là que la sémantique entre en jeu. Avez-vous remarqué à quel point nos médias et nos politiques sont d'incroyables champions de la métaphore adoucissante ? Quand on regarde la météo ou qu'on lit les actualités, on a parfois l'impression que la planète s'offre juste un petit séjour au spa, tranquillou, pépouze, en string, les pieds en éventail et un cocktail à la main. On parle de douceur hivernale quand il fait 20 degrés en plein mois de janvier. On parle de vagues de chaleur comme s'il s'agissait de super rouleaux dans lesquels on va pouvoir aller surfer un peu plus tôt chaque été. Le problème, c'est que ce ne sont pas des vagues, ce sont des anomalies thermiques. Ce ne sont pas des douceurs, ce sont des symptômes. En 2022, la même année que la sortie du fameux « Qui aurait pu prédire » de Macron, plus de 100 rédactions en France ont signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et franchement, ça, ça claque. Son objectif ? Arrêter d'édulcorer le réel. Parce que la manière dont on nomme une crise change radicalement notre façon d'y répondre. Si on prend par exemple l'expression déjà has-been « changement climatique », scientifiquement, c'était presque correct, mais psychologiquement, c'était pas ouf, c'était neutre. Un changement, ça peut être positif, ça peut être gérable, voire même, limite, ça peut être agréable. Les saisons changent, les modes changent, nous on change. Alors que ce que nous vivons là, en réalité, c'est une crise, c'est une urgence, un risque d'effondrement. Alors, je vois d'ici les sceptiques lever les yeux au ciel et me dire « Oh, ça y est, voilà encore un de ces collapsologues relous qui va nous faire la morale et nous brandir l'apocalypse. » Mais la charte du journalisme, justement, nous dit justement exactement l'inverse. Utiliser les bons mots, ce n'est pas être relou ou catastrophiste, c'est juste être factuel, en fait. Quand un thermomètre affiche 45 degrés en Europe de l'Ouest, dire que le climat se dérègle, c'est un euphémisme. Il ne se dérègle pas tout seul, par magie, le climat. Il est perturbé par l'activité humaine, il est perturbé par nous. La charte nous invite donc à lier systématiquement le mot « effet », la canicule, au mot « cause », les énergies fossiles. Le climat ne fait pas de politique, mais son traitement dans nos médias exige de la rigueur. Alors, nous, aujourd'hui, on est en radio, là. Mais l'enjeu s'applique aussi aux images. La charte pointe, par exemple, ce réflexe foireux qu'ont encore trop de médias, illustrer une canicule historique avec une photo d'un gosse qui mange une glace ou des touristes qui se baignent dans une fontaine. Sérieux, le message, c'est quoi ? Youpi, c'est les vacances. Il fait un peu chaud, mais on vit notre meilleure vie. Ouais, sauf qu'une chaleur extrême, c'est aussi et surtout de la souffrance. Ce sont des récoltes détruites, ce sont des hôpitaux saturés et ce sont surtout des écosystèmes qui crèvent. Sérieux, on ne soigne pas une fracture ouverte avec un joli pansement licorne arc-en-ciel. Pardon, ça c'est une déformation paternelle. Et j'en profite d'ailleurs pour ouvrir une petite parenthèse personnelle. Vous savez comment une de mes filles de 3 ans appelle un pansement ?
Non.
Elle appelle ça une popiette. Franchement, je sais pas d'où elle sort ça, mais je trouve ça trop mignon. C'est trop choupinou. Mais quand même, mon rôle de papa, c'est de lui apprendre qu'il faut qu'elle appelle ça un pansement, histoire qu'elle puisse se faire comprendre par d'autres adultes le jour où elle en a vraiment besoin. Depuis, elle a compris. Mais elle continue à appeler ça une popiote parce que ça la fait marrer et qu'elle trouve ça rigolo. Moi aussi, je trouve. Mais franchement, si une gamine de 3 ans arrive à comprendre qu'il faut nommer correctement les choses pour pouvoir se faire comprendre et surtout pour pouvoir traiter efficacement un problème, nos médias et nos dirigeants devraient pouvoir le faire aussi, non ? Ou alors, ils sont trop cons. La disparité dans nos médias, des sémantiques utilisées, nous place très 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 loin du réel et à des kilomètres d'être dans une sorte de convergence vers un discours commun. Certaines et certains ont les bons mots, d'autres sont clairement à la ramasse, voire pire. D'un côté, on a le registre du déni ridicule. Récemment, sur un plateau de télévision, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, s'est agacé qu'on s'inquiète autant d'une simple vague de chaleur. Pour minimiser l'événement, il a cru bon de convoquer la mémoire de son père en déclarant qu'il s'était évadé des camps nazis et qu'il y faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Fin de citation. Fin de citation parce que tout le reste de ses propos est de la même teneur. C'est ridicule, c'est même une indécence sémantique totale. Comparer une catastrophe systémique globale à une expérience concentrationnaire pendant la Seconde Guerre mondiale pour nous dire « bande de fragiles, on est quand même capable de supporter ça », c'est le niveau zéro de la pensée écologique. C'est transformer un thermomètre qui nous pète à la gueule en un simple caprice de citoyen trop gâté qui refuse de souffrir en silence. À l'autre bout du spectre sémantique, il y a la militante Camille Etienne, par exemple. Sa description de la canicule et de la crise actuelle refuse de s'arrêter à la météo. Pour elle, parler d'inaction climatique est encore un mot trop doux, une formule passive qui excuse les responsables. Et elle propose une bascule de vocabulaire assez majeure. Ce que nous vivons n'est pas le fruit d'une négligence, c'est une action délibérée de destruction du vivant. Donc chez Ferry, la canicule est un inconfort passager qu'il faut endurer avec stoïcisme. Chez Etienne, la canicule est la preuve matérielle d'un crime systémique commis par les décideurs et les prédateurs, j'allais dire, qui choisissent sciemment le profit à court terme plutôt que l'habitabilité de la Terre. La charte du journalisme nous rappelle à cette exigence. Les mots ne sont pas neutres. Alors utilisons les bons. L'effet de l'effondrement climatique, c'est la souffrance des corps et la mort des écosystèmes. La cause de ce gros bordel climatique, c'est l'extraction des énergies fossiles et notre activité. Et là, on peut commencer à discuter. Là, on peut commencer à faire du journalisme. Là, on peut commencer à faire de la politique. Et surtout, là, on peut commencer à faire de l'écologie. Parce que nommer l'effondrement par son nom, c'est le seul moyen de créer l'électrochoc pour commencer à y survivre. Et pour finir, moi je vais vous proposer un petit peu d'autopromo et je vous laisse avec ma bande son post-apocalyptique à moi, à savoir Ex Machina avec La fin d'un monde. We'll be right back.
sauvage observe avec méfiance le néant du nouveau monde, tout en essuyant l'écume blanche de sa bouche à l'aide de ses phalanges à vif. Sous les coups d'un soleil plombant, complètement déboussolé, poussant les flancs de la dune, surplombant les taches brunes de l'ancienne civilisation, ses ruines en désagrégation et son nuage radioactif. Partout les brèches béantes vomissent des restes corrosifs. L'angoisse est dissipée, mais sa trace persiste, gravée dans les gravats. Sous un ciel chargé d'un fatras, le poussière et de débris volatiles qui se déploient en un dégradé sordide, féroce. L'orage arrache le silence de mort, comme pour rendre hommage à ce décor saccagé qui tremble encore. Des zones glabres, des pourvus d'arbres, des zones crades où les drones planent, où les clones s'arment. Il n'y a que des pylônes qui parviennent à émerger du sable, même les jeunes pousses se fanent. Des geysers de flammes dans un désert qui s'étale au-delà des rivières de larmes et des cimetières de métal, où la rouille est reine, où les charognards traînent en quête de victoires humaines.
Regarde-nous dans les braises, les fils du feu, regarde-nous dans les braises.
Les fils du feu, regarde-nous dans les braises, nos têtes fêlées, parquées en meute. Quitte à parler de trêve, de là où rien ne traîne, longtemps sans qu'une lame ne t'appelle. Nous sommes les fils du fiel aux ailes irradiées, sans famille ni repère. Ce que la fin d'un monde a fait naître, des gosses larqués que l'horreur pénètre. Nos jours sont au rythme des guerres, des braquages et pluies d'uniformes sous nos pales. Otages du cycle des pères qui nous ont légué leurs bombes et leurs armes le soir. Nous rentrons comme des bêtes, fêter l'asphalte à gare, oublier l'instant. Cacher nous taisons nos défaites et les ventres affamés de milliards d'enfants. Nos mères nous ont cédé leur triste ville, où l'on mourra sans y voir clair. La peur nous a rayé des listes, à trop salir l'air, nos cœurs et l'histoire. La survie comme seul cap, rester en place lorsque tout peut surgir, caressant le feu. Rien ne nous guide, crois-moi, rien dans nos yeux.
Aucune trace d'activité visible dans les parages, pas le moindre signe de vie visible, on a tourné la page. Les griffes de la discorde ont façonné le paysage. Le chaos s'est instauré, laissant un monde à son image. Une pellicule de sel étouffe la terre en lieu aride. Le soleil est un culte infecté par les pluies acides. Un risque de crevasse se forme sous la chaleur torride, sur ces étendues de poussière où règne le vide. Atmosphère toxique, climat de charbon et de braise. Des squelettes mécaniques se refondent dans la fournaise. L'odeur de punaise écrasée renforce le malaise de la décharge bariolée jouée au pied de la falaise. La mer s'est retirée sans qu'on ait pu les faire barrage. On a heurté un écueil comme un navire sans équipage. Scindé aux bestioles, les feuilles parsèment le naufrage. La flore appauvrit ses tioles, la sécheresse fait rage. Les fumerolles de gaz et les fontaines de lave crachent leur poison pendant que l'horizon s'embrase. Des feux follets s'affolent et les apparitions spectrales atteignent les ombres avec leurs lueurs opales. On se pelit sous les décombres, les carcasses en pagaille qui se fondent dans la grisaille et des épaves sur des rails aux arrêts.